Bon, on va faire le point avec le Dr Carl Weiss sur un certain nombre de questions, notamment le changement de priorité dans les tests. Qui doit-on tester d'abord et avant tout? Et d'autres questions. Il est microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
C'est vrai qu'on a changé les priorités. Là, on passe d'abord et avant tout les gens du réseau de la santé. Qu'est-ce qui a amené ça, selon vous?
Ben, écoutez, on change les priorités. On a surtout restructuré les priorités. Il faut voir comment on est arrivé là. C'est qu'on a une augmentation de notre capacité de tester au Québec. C'est indéniable, mais cette augmentation est quand même limitée. On n'est pas capable de tester de façon infinie tout le monde, mais on va être capable de le faire de façon beaucoup plus marquée dans quelques semaines. En attendant, pour que cela puisse avoir son maximum de retour d'investissement, il faut s'investir sur des gens chez qui le diagnostic est primordial. Alors, c'est qui? Les gens qu'on va hospitaliser, les travailleurs de la santé, parce qu'on ne veut pas qu'ils infectent d'autres personnes, surtout s'ils travaillent. Et on sait que dans les centres de soins prolongés, les travailleurs de la santé pourraient être, entre guillemets, des chevaux de Troie. Ensuite, bien sûr, les gens dans les CHSLD, les centres de soins prolongés, parce que ces gens-là, on sait que le risque de décès, le risque de complications est très élevé. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Donc, on a mis une espèce de catégorisation, si vous voulez, de ce genre de choses-là. Mais c'est pas mauvais, puis ça changera pas grand-chose. Il faut savoir qu'au Québec, on a quand même testé beaucoup plus qu'en Ontario. Et que, d'ailleurs, si vous comparez le nombre de morts en Ontario et le nombre de morts au Québec par rapport à la population des deux provinces, vous voyez qu'au Québec, on a testé relativement beaucoup plus qu'en Ontario. Donc, oui, on limite un petit peu nos tests, mais il ne faut pas voir ça comme étant un problème majeur.
Maintenant, ce que j'entends beaucoup là, comme questionnement, c'est, par exemple, en milieu de travail. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est testé positif. Qu'est-ce qui se passe avec pour les gens qui ont été en contact? Est-ce qu'on les teste? Est-ce qu'on envoie tout le monde en quarantaine? C'est quoi la marche à suivre?
Bon, alors là, alors ça dépend un peu où vous travaillez, mais la marche à suivre est très simple. D'abord, les gens qui ont été en contact, on évalue le type de contact. C'est-à-dire que si vous étiez assis à côté de moi pendant 2 heures à 3 pieds de distance en train de parler, ou si vous travaillez avec moi toute la journée, c'est une chose. Si vous êtes quelqu'un qui est allé dans le même endroit, vous avez pris un café à la machine à café quelques minutes après que je sois passé, c'est une autre chose. Donc on regarde l'intensité du contact. On va souvent regarder aussi le type de contact. La deuxième chose qu'on va faire, on va demander aux gens de s'auto-surveiller, c'est-à-dire ceux qui sont théoriquement en bonne santé, qui n'ont pas de symptômes, ben, sous certaines conditions, pourraient peut-être travailler, mais ceux qui ont, puis évidemment se suivre, mais ceux qui ont des symptômes ou quoi que ce soit, eux vont devoir être immédiatement renvoyés en quarantaine. L'autre chose qu'il faut savoir, ça dépend un peu le type de travail que vous faites. C'est sûr que si c'est un travail clérical dans un bureau où vous n'êtes pas quelqu'un de totalement essentiel à la marche des opérations, ben, c'est évident qu'on va vous mettre en quarantaine. D'un autre côté, si vous êtes quelqu'un dans un hôpital où on a des critères pour les travailleurs de la santé. On ne veut pas mettre tous nos travailleurs de la santé inévitablement en quarantaine parce qu'à ce moment-là, ça créerait des problèmes. Et dans certaines circonstances, si les gens portent des masques, font attention, vont se monitorer, etc., ils peuvent revenir travailler sous certaines conditions.
OK. Parlons justement des masques. Le maire de New York a dit hier aux New-Yorkais, si vous sortez, portez quelque chose, un masque ou... Faites-vous un masque de façon artisanale. Je vois ce matin qu'aux États-Unis, ça pourrait peut-être même devenir une espèce de directive, là. Vous en pensez quoi? On en a déjà parlé, vous et moi, mais j'aimerais à nouveau vous entendre là-dessus.
Bon, dans un monde idéal, dans un monde où on n'aurait absolument aucune limite sur le nombre de masques à porter, c'est sûr que c'est une mesure adéquate qui se rajouterait aux autres. La réalité, c'est ça. La pratique, c'est que il faut quand même faire attention parce que le masque n'est pas non plus une sécurité absolue. Et donc, ce qu'on a peur aussi, c'est que les gens, une fois qu'ils se mettent à porter un masque, laissent tomber tout le reste. Et ça, ce serait très, très dangereux en se disant, je porte un masque, j'ai pas besoin de me laver les mains, j'ai pas besoin de respecter les distances. Je me sens avec un sentiment de fausse sécurité. Donc, un masque, c'est correct si c'est ajouté à d'autres mesures, si les gens continuent de suivre les autres mesures, incluant le confinement, etc. Donc, c'est un outil qu'on rajoute à tous les autres. Évidemment, le problème majeur qu'on a actuellement, c'est le manque de masques criant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous mettez une barrière, donc si vous êtes malade, mais en théorie, vous allez me dire, si vous êtes malade, vous n'êtes pas supposé sortir, vous êtes supposé rester chez vous. Donc, si vous mettez une barrière devant votre bouche, parce qu'il faut comprendre, ces masques-là, ça empêche surtout les gens malades d'envoyer leurs microbes dans l'atmosphère, Donc, si vous mettez une barrière devant votre bouche, à ce moment-là, ben, vous allez, entre guillemets, diminuer le risque que vous toussiez dans la face des autres et que vous les infectiez. Donc, c'est un ensemble de mesures. Je vous dirais, il y a des pays qui l'ont adopté complètement et les pays qui ont la capacité d'avoir des masques pour tout le monde, ajouté à d'autres mesures, c'est sûr que ça va être un plus.
OK. J'entends plein de gens spéculer, disons, sur la période d'incubation. Alors, je vous pose la question, est-ce que après 14 jours, si j'ai pas de symptômes, je suis correct ou si ça peut être même après le 14 jours?
Non, 14 jours, c'est correct. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médiane, en général, la période d'incubation, 50% des gens vont tomber malades dans 5 jours après leur contact. La majorité des gens vont l'être entre 5 et 7 jours. Et à 11 jours, quasiment 95-97% des gens vont avoir été malades au jour 11. Donc, on a gardé 14 parce qu'il y a une petite traînée, que, si vous voulez, de okay. gens qui vont prendre un peu plus longtemps. Mais c'est vraiment, après 14 jours, là, on peut dire qu'à moins que vous soyez réinfecté, vous êtes correct.
Bon, ça, c'est l'autre question. Quand vous dites réinfecté, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le cas des gens qui ont été donc guéris et est-ce qu'ils sont immunisés?
Oui, alors guéri, c'est guéri, vous êtes immunisé. Si vous avez si vous avez fait la maladie, vous êtes passé au travers, vous avez récupéré, on va vous considérer comme guéri, donc vous ne rattraperez pas l'infection. La durée de cette protection, par contre, c'est ce qui reste à déterminer. Est-ce que vous allez être protégé 2 ans, 3 ans, 8 ans, ça, personne ne le sait, mais la réalité, c'est que si vous avez fait l'infection, vous êtes guéri. Donc, vous ne rattraperez pas le corona COVID-19 dans l'année qui va venir.
Mais s'il y a une mutation ou si...
Non. Okay. Non. Il n'y en aura pas. Puis en plus de ça, okay. Je vais être honnête, ce virus, probablement que ce ne sera pas un virus qui va muter de façon extrêmement importante. Et s'il mute jusqu'à un certain point, c'est plus pour s'adapter à l'espèce humaine.
OK, très clair. Merci beaucoup, Dr. Weiss.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, bonne journée. Dr. Carl Weiss est microbiologiste, spécialiste en maladies infectieuses. Alors, c'est important de faire le point. Et vous comprenez pourquoi on insiste beaucoup sur les mesures à prendre de respect du confinement, de la distance entre les personnes dans l'espace public.